Radio Spirale. En juin 2012, le REIC présentait son colloque annuel intitulé « Territoire de l'interdisciplinaire, art et environnement ». Cette quatrième rencontre avait pour titre « Paysage alternatif, sonder, explorer et nommer autrement le paysage ». Elle réunissait à une même table Francine Larrivé, Charlotte Panaccio-Letendre, Moeb Soliman et Sarah Wookie.
Alors, bonjour tout le monde. Je suis Lise Gagnon, directrice du REIC. Aujourd'hui, deuxième jour du colloque, ou deuxième jour et demi du colloque, troisième table ronde. Bienvenue à tout le monde. Merci aux artistes d'être là. Merci à vous d'être ici, alors qu'il fait si beau dehors, que c'est samedi. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, on a une table ronde. Ce matin, cet après-midi, on a des tables rondes avec des artistes anglophones qui ne comprennent pas toujours le français. Donc, Victoria Stanton sera de la table ronde. Et si des artistes ne comprennent pas certaines interventions, Victoria va leur traduire. Si, admettons, dans la salle, vous ne comprenez pas certaines interventions, réponses des artistes, Victoria pourrait faire un petit résumé bref en français, mais on ne va pas tout traduire, mais comme ça va être un peu plus long qu'hier, donc on va demander aux artistes d'être plus concis, d'essayer d'être concis, de s'en tenir à une présentation de 10 à 15 minutes pour que tout le monde puisse parler puis qu'on puisse échanger aussi avec la salle. Donc, sur ce... bonne journée, bon colloque, et je cède la parole à Martin.
Merci Lise. Donc, bienvenue à la troisième table qui s'intitule « Paysage alternatif, sonder, explorer et nommer autrement le paysage ». Pour celles et ceux qui ont été là hier, les tables rondes se penchaient davantage sur l'espace public urbain. Le colloque souhaitait évidemment approcher le territoire et l'environnement au-delà de ses limites. Aujourd'hui, on va approcher la nature, le ciel, les grands lacs, et on va se déplacer aussi dans des projets ambulatoires. Donc, avec moi, j'ai Francine Larrivé, une artiste qui cumule plus de 40 ans de pratique, référence incontournable de l'art féministe, mais aussi pionnière à avoir intégré la nature dans sa pratique, une pratique interdisciplinaire qui fait se croiser des savoirs divers, de la botanique, de l'installation, de la sculpture, de l'aménagement et du land art, notamment. Sa pratique plus récente aussi fait fait de cueillettes et de glanage, et d'histoires à partir d'objets et d'artefacts ramassés. Donc, ça va être tout un défi de présenter une pratique si vaste en si peu de temps. Après quoi, Charlotte Panaccio-Letendre, qui est la coordonnatrice à la programmation de la Galerie Verticale à Laval, qui est aussi commissaire indépendante, qui a une formation en études des arts et en gestion des organismes culturels, notamment impliquée à la Galerie de l'UQAM, vice-présidente du conseil d'administration de SCOL, et qui, aujourd'hui, va nous parler de l'œuvre en tant que dispositif, particulièrement à travers le travail de François Quévillon et de Laurent Lévesque. Après quoi, Moeb Soliman va nous parler d'un projet qui est artiste, auteur, performeur, commissaire indépendant aussi, va nous relater un projet interdisciplinaire, notamment qui était une aventure autour des Grands Lacs, où l'exploration du territoire se faisait à travers l'écriture et la marche. Sa recherche porte sur la question d'identité, sur la question de l'amour et du territoire. Et à la toute fin, Sarah Wookie, qui est danseuse, chorégraphe, artiste interdisciplinaire, enseignante dans diverses universités de Californie, elle habite à Los Angeles, va nous parler de projets interdisciplinaires qui impliquent architectes, urbanistes et artistes, notamment des projets d'ambulation et de dérive dans le territoire de la ville. Donc, on va commencer avec Francine.
Est-ce qu'il fonctionne? Je vais l'approcher.
Le plus près, oui, de la boule.
Évidemment, 40 ans, c'est en 15 minutes. Je ne vais pas trop donner de détails, mais j'essaie de rentrer le plus possible à partir du moment où, après la chambre nuptiale, qui est une œuvre manifeste réalisée en 1976, il m'a fallu 7 ans d'arrêt pour prendre un recul et dénouer les nœuds de contre-coup de cette intervention. Tant de silence, nourri d'observations et de petites choses. Comment suivre un chemin qui nous mène droit en avant sans connaître la voie qui se dessine? Ne pas regarder en arrière, réapprendre à voir. Laisser pousser cette nouvelle graine de vie et se remettre au monde. Reprendre contact avec soi, simplement par des gestes simples. Se donner le droit de goûter l'instant, une minute à la fois, sans penser à rien, et revenir à la source, au lieu, au lien continu de l'être. J'ai fait de longues randonnées dans les bois, j'ai observé la nature, me confondant avec elle, par des gestes simples de cueillette, renouant peu à peu avec cet appétit de connaître, de découvrir et de comprendre. Ma recherche s'oriente alors vers la création de jardins paysages, de mousses, miniatures, vivants, qui m'amènent à découvrir peu à peu les liens se tissant avec la philosophie orientale. À l'automne 83, Mousse en situation, test 1, est présenté dans le cadre de l'exposition actuelle 1 à la place Ville-Marie. Il s'agit d'une première intervention publique et inédite avec les mousses. L'événement a un impact important sur le public et la critique. C'est le début d'un long questionnement sur la problématique inhérente à la transposition des mousses en milieu artificiel. Le titre « Test 1 » signale l'approche laboratoire de ce jardin de mousses vivantes et l'intention de le confronter aux données de l'espace public, lumière, chaleur, fréquentation du lieu, interrelation entre les mousses et les visiteurs et les besoins d'arrosage compensatoire. Cette première œuvre, un jardin paysage offrait aux visiteurs l'instant d'une pause et celui d'un regard, un paysage, des montagnes à vol d'oiseau, un jardin et un vide qui le traversait pour le fréquenter, le paradoxe au milieu du va-et-vient que conditionne ce lieu de bureau et de commerce. Après le démontage de l'œuvre, chaque module a été inséré sous la paille dans des boîtes de carton et exposé au froid, au gel et à l'hiver. C'était le test 2. Au printemps, les mousses avaient survécu et étaient de pure beauté. En 84, au cours de l'été, l'installation Jardin-Paysage enfouissement de traces mousses en situation test 3 est présentée dans les silos du Vieux-Port de Québec pour l'événement Québec 1534, 1984, les Grands Voiliers. Ce troisième test, à l'intérieur du bâti industriel désaffecté, plus ou moins ouvert aux quatre vents, a permis de vérifier la tolérance des mousses à l'éclairage artificiel, le jour par de petits spots halogènes d'exposition, et de compensation la nuit par des fluorescents agro-light installés sur des rails coulissés à 6 pouces des mousses afin de permettre la photosynthèse. Le jardin paysage, morcelé par la ponctuation des piliers porteurs des silos, était appréhendé visuellement par le déplacement physique du visiteur qui pouvait le traverser en diagonale et circuler autour. De part et d'autre, sur les côtés des quatre murs de l'édifice, l'œuvre jardin est entourée de nombreuses collectes, branches, pierres, ossements, témoignant de la notion de paysage et des cycles de vie et de mort. Le test 1 et test 3 questionnaient à ce moment-là la survie des mousses en milieu artificiel et en filigrane, celle des êtres humains. Là, je vous montre une partie qui est dans le pourtour. Tout ça, c'est sur diapo et c'est très, très long à faire transférer en numérique et c'est très coûteux. Puis là, je vais m'équiper pour le faire moi-même. Donc, je n'ai pas ces images-là parce que ça fait longtemps. Alors, à un autre moment donné, on va pouvoir revoir ce travail-là. Mon travail récent dans les espaces extérieurs procède d'une lecture du site à partir de certains signes subtils qui s'y révèlent, des gestes posés en interaction avec l'environnement qui contribuent à repousser les limites de l'art et du vivant. Ils cherchent à tisser entre l'intervention et le lieu où elle se situe un lien organique qui permette un dialogue préservant l'identité du lieu investi. L'intention étant de créer un déplacement du regard chez l'autre qui le rende témoin et participant de cette rencontre. Pardon. Oh, je viens de faire quelque chose de pas beau. C'est à la suite d'une recherche en laboratoire avec des chercheurs en biologie végétale, en architecture et en génie, étalés sur une période d'une dizaine d'années, puis à des expérimentations et des expositions éphémères avec les mousses comme support vivant de mes œuvres, que l'intervention dans la nature s'est imposée comme condition incontournable dans la poursuite de mon travail. Intuition, puis désir d'articuler quelque chose qui participe de la nature intacte et de l'expression d'une pratique artistique qui traduit le chevauchement des savoirs entre la sculpture, l'écologie, l'installation, le land art, les earthworks et l'architecture de paysage. Ce travail, un chassé-croisé au niveau des intentions, de mise en situation ou de décontextualisation, opère en interaction avec l'environnement par similitude apparente, interpelle mes interlocuteurs à différents niveaux d'impact et de lecture, dont la miniaturisation, la mise en abîme, l'artifice, le naturel, la non-évidence d'une intervention pourtant importante ou encore la face cachée de la recherche scientifique inhérente au projet. Dans le prolongement de cette approche, en filiation avec l'ensemble de mon travail qui se poursuit dans le cadre d'événements artistiques, d'expositions solo et de groupes dans différents contextes urbains, à l'intérieur et à l'extérieur du bâti, je réalise une vingtaine d'œuvres monumentales, pérennes, dans le cadre de commandes publiques qui rejoignent une plus large collectivité, souvent absente des lieux d'exposition. Parallèlement, cette expérience me permet de repositionner mon travail dans la nature avec les mousses afin d'assurer le maintien de la vie de mes œuvres dans des contextes hors normes, de résoudre la question de permanence sur le plan structurel, support, ancrage, etc., et d'introduire les expériences d'apprentissage à la pérennité aux réalisations de gestes in situ. Alors, en rafale, je vais vous montrer les œuvres qui ont été réalisées entre... Un paysage dans le paysage a été fait un premier temps. Il y a eu des super inondations au printemps, pendant l'été. Donc, j'ai refait l'œuvre au complet, même la forme, mais cette fois avec comme intention de la rendre pérenne et donc de pouvoir l'enlever à l'automne, de la mettre dans une boîte, dans des boîtes de bois avec géotextile et grillage pour empêcher les petites bêtes d'aller s'y loger, mais permettre aux mousses de pouvoir vivre l'hiver et toutes les saisons jusqu'au moment de du repositionnement de l'œuvre sur le barrage à l'été. Alors, un paysage dans le paysage, c'est au jardin de Métis, à Grand Métis, en Gaspésie. Quel regard se pose sur le paysage? J'ai pas d'image, malheureusement. C'était cette intervention dans le cadre d'un symposium au parc Marie-Victorin, à partir des signes que le site me donnait. Alors, c'est un grand travail dont il y a encore des traces, parce que c'était comme considéré des interventions permanentes, mais la nature reprend tranquillement, pas vite, sa place et son cours. Quel regard se pose dans le paysage, donc, en 95? Jardin de vie, vision du regard aigu. Ça, c'était à l'origine... Non, c'est avant, c'est... Ça. OK. Alors, donc, excusez-moi, on va aller à une intervention de phytorémédiation, land art, en complicité avec un écologiste et des services des jardins botaniques, des chercheurs du jardin botanique, du service des jardins EPAC, des activités culturelles et du Centre d'excellence en environnement du laboratoire de la Ville de Montréal. Donc, cette intervention-là, c'est sur un terrain contaminé du CN. C'était une cour de triage, donc c'est la mémoire. Je me suis servi des signes des différents rails pour reproduire différentes différents traits de culture, de plantes susceptibles de corriger et de nettoyer la contamination. Malheureusement, cette œuvre-là, elle a été, il y a 2-3 ans, en catimini, il y a eu des travaux, puis on a effacé, on a mis du gazon, puis on a effacé cette mémoire-là. Alors, donc, c'est partie remise à un autre niveau, à un autre moment donné. C'est pas toujours évident de faire de ce type d'intervention-là, puis d'avoir une volonté ferme de poursuivre, de laisser apparent qu'on est en train de faire un travail de décontamination naturelle. Ensuite, absorption. Absorption, c'est une plantation de saules qui jouait le rôle, qui est dans le parc écologique de l'Université de Moncton. Et donc, on va revenir. Alors, donc, c'est un tracé en serpentine. Sur 60 pieds, dans l'intervention même des saules plantées, puis en avant, des pas, et à l'intérieur et à l'extérieur, éventuellement, il va y avoir des pas de pierre, parce que c'est un milieu suintant, presque de ruisseau, et les saules ont fait leur travail. Donc, on va voir donc, d'autres images à l'hiver suivant, ou un an plus tard. Et ensuite, en pleine forme, je pense que c'est en 2010, attendez une minute, celle-là, je pense que c'est en 2010, ces photos-là. En principe, je devais faire un abri, tresser les saules ensemble, sauf qu'on m'a appelé trop tard pour intervenir. Et ça aurait dû être fait comme l'année suivante pour ne pas briser, pour ne pas endommager les saules. Alors, donc, ils vont vivre, on va continuer. Ils vivent vraiment. On a essayé d'en faire, là, mais à un moment donné, j'ai dit, on arrête ça. C'est beau un concept, mais ces arbres-là n'ont pas besoin de se faire tresser adultes. Donc, c'est là pour toujours, dans le parc. Ensuite, une intervention à Jouy-en-Josas dans le cadre des environnementales 2006 en France. Alors, ici, c'est un travail fin, très fin, fait sur un terrain où il y a des racines de pneumatophores, ce sont des cyprès de l'Amérique, un peu comme en Louisiane, un peu partout, ça ressemble à des petits moines. Il y a beaucoup de saleté qui tombe, des déchets qui tombent des arbres. Donc, c'était un nettoyage en finesse, récolte des épines pour pouvoir, au printemps suivant, les reposer par terre après avoir tout nettoyé. Et il y a un ajout de copeaux de couleur rose pour souligner un peu plus l'intervention parce que c'est très subtil. Alors, il y a une autre image de ça. Ensuite, on a donc, on va regarder le marais qu'on a tout nettoyé, dont on a enlevé toutes les plantes qui étaient susceptibles de détériorer le milieu. Ça, c'est une grosse job avec des grosses bottes jusque-là. C'est une école de formation, entre autres, d'aménagement de paysage avec les étudiants. On a tout nettoyé le marais. Et ensuite, on ne le verra pas, mais on a identifié chacune des plantes qui étaient présentes là. Et pour souligner l'intervention, on a mis des bandeaux, des bambous qu'on a peints bleus pour juste signifier qu'on a fait un petit quelque chose là. Et là, ça aussi, ça vit, ça progresse, c'est vraiment un marais vivant intéressant. Et l'autre, c'est la restauration de la fontaine. C'était la source. On ne voyait pas la fontaine. C'est un jardin à l'anglaise. Ce parc est à l'anglaise. On a découvert les traces d'une fontaine qui datait des jardins à l'italienne. Et on a restauré en partie la fontaine, et donc les bassins. Et l'autre image est donc replanter aussi des plantes aquatiques et des prêles parce qu'évidemment, on a piétiné le terrain, donc on l'a reconstitué. Et au-dessus de la fontaine, j'ai planté là aussi des saules, les mêmes saules, qui, eux autres aussi, absorbent le trop-plein d'eau parce que les gens circulent sur le terrain. Alors, l'ensemble de mes interventions et de mes œuvres établissent une relation avec l'histoire du site en miroir, en écho, en ajout ou en soustraction sensible de la matière. Elles se manifestent par des appropriations artistiques de parcelles, de la topographie du terrain, ou par gestes connectés à la mémoire, au savoir-faire ancestral, réinsérés dans la pratique artistique actuelle sur différents registres d'expression, de mode et d'écriture plastique. Sur ces 15 années d'intervention, chaque geste posé a, volontairement ou pas, inscrit une version de la complexité des préoccupations actuelles de l'art contemporain et de l'éclatement des genres, des propos et des niveaux d'implication du jeu intime au nous social et politique, un et l'autre associés ou dissociés. Une filiation de signes mis en lumière par un art du geste dans le paysage se tisse par petites touches successives d'apprivoisement, d'appropriation et de connivence avec les lieux investis. La nature, la ville, les gens, du plus jeune au plus vieux, mais contemporain. Elle lie mon travail à d'autres gestes et à d'autres interventions sensibles dans l'histoire des primitifs au jardin zen, des jardins de la Renaissance au Land Art et au Earthwork, et à certains travaux remarquables dans la nature d'artistes, de jardiniers et d'architectes de paysages actuels. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. J'invite Charlotte à prendre... Je vais passer le micro.
Ah, oui, ça va. Bonjour. Je suis très contente d'être avec vous ce matin.
On peut changer de place.
Oui, je vais, oui. Comme ça, je vais prendre le contrôle de mon PowerPoint. Donc, comme je disais, je suis très contente d'être avec vous ici ce matin. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas à l'aise avec le micro. Donc, ma proposition porte sur l'œuvre d'art comme dispositif, sur le décloisonnement des pratiques artistiques actuelles en tant que facteur déterminant de la réception de l'art. Donc, l'hypothèse que j'ai explorée, dans le fond, c'est dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, et que le décloisonnement des pratiques artistiques entraîne une diversification importante des contextes de l'art, qui favorise non seulement l'élargissement de la notion de public, mais une réévaluation de son rôle. Si les pratiques artistiques contemporaines semblent complexes à cerner, ce serait lié à leur hétérogénéité. Donc, les contextes de création, de diffusion s'insèrent dans les communautés, vont vers les lieux publics et les espaces sociaux. L'idée principale que nous abordons ici est que l'œuvre d'art ne se conçoit pas comme un simple objet, mais bien comme un dispositif dont la caractéristique principale est l'hétérogénéité et que, ce faisant, elle offre la possibilité d'être à la fois art et non-art, donc d'être très ancré dans le réel, dans le quotidien. Donc, l'art aurait un côté très pragmatique, finalement. En lien avec le colloque « Les territoires de l'interdisciplinaire art et environnement », je propose une très, très brève étude de cas dans le but de démontrer l'importance qu'accordent certains artistes en art actuel à l'environnement. Donc, que ce soit du point de vue des thématiques et sujets abordés ou par les technologies utilisées, le projet Dérive de François Quévillon s'inscrit dans cette perspective de questionner notre rapport au monde et plus particulièrement celui de l'environnement dans lequel nous évoluons, tout en plaçant la participation du public au cœur de son propos. Donc, j'ai pas pu parler de Friendly Floaties de Laurent Lévesque à cause d'une contrainte de temps que j'espère vous comprendrez. En première partie, je vais traiter du dispositif comme de la forme de l'œuvre ou du projet artistique, en posant l'hétérogénéité comme une caractéristique fondamentale. Donc, les textes de Michel Foucault, de Giorgio Agamben seront convoqués pour établir les assises théoriques. Outre la notion de dispositif qui constitue l'amorce de cette réflexion, j'aimerais aborder certaines des questions soulevées par Martin et qui sont spécifiques à ce panel de discussion. Donc, le dispositif hétérogénéité en art actuel. OK. Cet intérêt pour l'hétérogénéité découle de celui de la notion de dispositif telle que théorisée par Michel Foucault et qui, par la suite, a été reprise par Giorgio Agamben. dans Le jeu de Michel Foucault, donc un entretien de 1977 qui est retranscrit dans Dit et écrit. Michel Foucault traite du dispositif comme d'un, je cite, « ensemble hétérogène qui inclut virtuellement chaque chose, qu'elle soit discursive ou non. Le dispositif pris en lui-même est le réseau qui s'établit entre ces éléments. » Fin de citation. Chez Foucault, la définition du dispositif est ancrée dans le champ des pratiques disciplinaires telles que l'histoire sociale et la philosophie. Pour lui, les hétérogènes sont des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques. Bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif, dit-il. Donc, ma réflexion a un peu évolué, mais si nous voulons appliquer la notion de dispositif pour traiter d'œuvres d'art actuelles, il faut reconsidérer les composantes qui seront constitutives dans ce nouveau contexte, donc celui de l'histoire de l'art et de l'art. Les structures de certaines œuvres d'art actuelles peuvent être comparées à celles du dispositif foucauldien, dont l'une des caractéristiques principales est l'hétérogénéité. L'ouvrage de Giorgio Agamben, « Qu'est-ce qu'un dispositif? » reprend la notion foucauldienne. Donc, pour lui, un dispositif est principalement une médiation. Donc, il y aurait construction du monde par le biais de dispositifs, dont l'un des plus anciens est le langage. Penser l'œuvre d'art actuelle comme dispositif l'autorise à agir comme une médiation avec le monde et permet de la comprendre comme générant des représentations, des savoirs, de l'intelligibilité, voire des paysages. La qualité hétérogène du dispositif est déterminante. Cette hétérogénéité peut s'appliquer tant aux œuvres qu'aux modalités d'exposition ou aux modalités de réception. Les hétérogènes doivent être compris comme une catégorie très large, incluant les individus qui font l'œuvre avec l'artiste, donc dans le cas des pratiques participatives, que les objets qui sont donnés à voir, à manipuler, les discours et les propos tenus, la critique, l'institution qui gravite autour du projet artistique. L'œuvre est la structure qui lie ces occurrences de nature variée, comme le dispositif foucauldien et le réseau qui joint les éléments hétérogènes. Comprendre l'œuvre comme dispositif permet notamment de prendre en considération les liens entre les différents acteurs et participants du milieu de l'art. À la lumière de ces deux assises théoriques, j'ai effectué un glissement sémantique pour faire de la notion de dispositif la structure même de l'œuvre. Donc, effectivement, dans la littérature sur l'art actuel, on observe l'utilisation accrue du terme « dispositif » sans pour autant qu'il soit théorisé. Donc, dans l'usage courant, l'expression « dispositif de l'œuvre » est fréquemment évoquée, donc particulièrement en art numérique d'ailleurs, pour discuter soit du système d'accrochage, soit des technologies utilisées pour que l'œuvre existe. L'œuvre est donc le centre autour duquel le dispositif gravite et le public est exclu. Donc, réfléchir l'art actuel en considérant le dispositif foucauldien et agamben permet d'inclure un propos sur l'aspect participatif de certaines pratiques tout en négligeant pas son hétérogénéité. Donc, l'importation de la notion de dispositif comme structure de l'œuvre vise à résoudre certains questionnements sur la forme disséminée des projets artistiques contemporains. Il s'agit d'une notion inclusive, permettant à la fois d'englober le moment de la fabrication ainsi que divers registres de présentation ou d'exposition de l'œuvre, de même que sa réception. Donc, on évite des dichotomies entre production, réception. Je trouvais que c'était une notion intéressante à travailler pour des projets de plus longue durée et qui prennent différentes formes. Donc, d'ailleurs, ma réflexion a été amorcée à propos des pratiques participatives, mais je crois qu'on peut aussi l'appliquer dans certains projets d'art médiatique ou d'art numérique, comme on va le voir avec l'étude de cas de dérive de François Guévion. Donc ici, c'est une petite synthèse. Donc, OK. Je voulais vous montrer un extrait vidéo. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, deux raisons m'ont incité à traiter de l'installation des rives de François Quévillon dans le cadre de ce colloque, soit ses qualités interdisciplinaires et l'objet de sa représentation, qui est un paysage urbain. Donc, d'ailleurs, l'œuvre a été présentée à la Galerie Verticale récemment, à Sherbrooke, dans le cadre d'Espace et Médias, puis a été produite dans le cadre de plusieurs résidences en différents lieux, soit à Sherbrooke, Lyon, Orléans, New York. Il m'en manque une. Il y a 5 villes. Non, je pense pas. Orléans, New York, Montréal. Voilà. OK. Donc, Dérive est une installation interactive en réseau qui invite le public à explorer des modélisations tridimensionnelles de sites urbains qui se transforment en fonction de données environnementales captées sur le web. Donc, l'interdisciplinarité est au cœur du projet qui emprunte des connaissances et des méthodes à des champs de recherche totalement extérieurs à l'art. Donc, évidemment, la programmation, la modélisation 3D, donc les procédés de photogrammétrie, d'information géomatique, de modélisation traditionnelle qui permettent, mais aussi la météorologie, plusieurs formes de sciences, qui permettent de réaliser des nuages de points 3D. Ça, c'est à Sherbrooke, Espace Immédiat. Des nuages de points 3D qui traduisent l'architecture et la topographie de différentes villes. Donc, ces disciplines fournissent des coordonnées fixes qui sont utilisées dans un environnement virtuel. Aussi, chacun des points qui constituent l'image de l'œuvre est modulé par des données météorologiques et astronomiques. Puis, il y en est de même pour les lignes qui joignent ces points. Ici, on voit bien les lignes, d'ailleurs, là. Ils font des genres de halo. Donc, par exemple, l'heure locale a un effet sur la taille et la luminosité des points, donc qui est relative au lever et au coucher du soleil. La température détermine la couleur des points. La nébulosité, donc la saturation des points. Le vent fait des sortes de déplacements puis qui reflète la direction et la vitesse. Il y a l'humidité qui a un impact sur la distance du focus et la profondeur de champ et la netteté des points. Puis il y a les précipitations qui forment des lignes aléatoires qui sont tracées du ciel au sol. Je ne sais pas si... Hop, non.
On va retourner là-dedans.
Comme un filet vertical plutôt que le vent, ça serait un filet horizontal.
Oui, c'est ça. En fait, ici, on voit très bien le vent. Il n'y a pas de précipitation, puis on voit qu'il fait au-dessus de zéro parce que la couleur est orangée, donc c'est une couleur chaude. Là, on a toutes des belles journées où il n'y a pas de précipitation. D'ailleurs, c'est très impressionnant quand il y a des précipitations. Je ne sais pas comment dire. Ça ajoute à la fascination qu'on soit dans un moment réel. Donc, quand on est devant l'œuvre, on peut s'approcher. S'il pleut, s'il vente à New York, par exemple, ben on est très, très loin. C'est une image abstraite. Puis plus on se rapproche, plus on peut voir, dans le fond, plus l'image est définie. Donc, c'est ça. Il y a aussi un procédé de synthèse qui utilise des données. Il y a aussi la pression atmosphérique qui génère un environnement sonore interactif aussi. Donc, là, j'aimerais ça un peu répondre aux questions que Martin posait pour la table ronde. Je ne sais pas si on va les reprendre en discussion après ou... OK. Donc, je pense qu'un des aspects intéressants qui nous lie au paysage, c'est justement cette idée qu'on soit en temps réel avec cette installation-là. Donc, on a une représentation de paysage, mais... je vais reprendre les questions, ça va être un peu plus simple. Donc, par exemple, Martin posait comme question, les artistes intègrent-ils leur expérience personnelle comme matériau de l'œuvre? Donc, pour moi, nécessairement, puisque François doit se déplacer, doit aller prendre des photographies, doit ancrer son installation très, très concrètement dans les lieux, doit s'informer du lieu, donc le prendre en photographie pour que les images soient le plus définies possible. Donc, c'est vraiment un travail... d'arpentage, c'est pas ça, mais il va arpenter, il va documenter les lieux. Ensuite, comment le rapport de l'art à la nature se déploie-t-il dans les pratiques artistiques contemporaines? Donc, alors que les images de l'œuvre et les technologies utilisées tendent du côté culturel, parce que ce sont vraiment des constructions, puis on est devant une image quand même de synthèse, une modélisation 3D, bien, les données qui modulent la représentation proviennent directement de la nature. Donc, pour moi, c'est quand même une qualité déterminante qui fait qu'on reste vraiment ancré dans le paysage, dans notre environnement naturel. Donc, sinon, les expériences artistiques arrivent-elles mieux à toucher et à transformer le public que les œuvres plastiques? Donc, pour moi, les œuvres comme dispositif, les œuvres qui utilisent plusieurs aspects ou qui nous sollicitent de plusieurs façons ont nécessairement, peuvent nécessairement mieux réussir à nous toucher, donc à nous solliciter puisqu'elles nous... c'est ça, puisqu'elles nous... Je m'excuse de dire solliciter encore, puisqu'elles nous sollicitent de plusieurs manières. Donc, voilà. Donc, poser l'hétérogénéité comme caractéristique importante d'une œuvre d'art, pour moi, c'est une manière de permettre aux œuvres d'exister dans une temporalité plus longue, puis de permettre au projet de se composer de modalités différentes et hétérogènes. Mais on peut en rediscuter. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci. Juste pour le plaisir des yeux, est-ce que tu as les images des autres projets? Juste,
Non, malheureusement, non. Okay.
Non, c'est ça. C'est bien. S'il fallait être concis.
Oui, c'est ça.
Merci.
Mais je vous invite à vous informer sur l'autoroute de l'information. Il y a plusieurs... Oui. Il y a des maquettes, il y a de la captation aussi en direct de ça, de dérive, puis aussi du projet de Laurent Lévesque que j'aurais aimé aborder... Oui.
Absolument. En fait, les deux artistes, l'ensemble des projets que Charlotte souhaitait vous présenter portaient leur regard sur le ciel et c'est ce qui nous avait franchement touché.
Oui, bien, c'est ça. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment le paysage, mais ce n'est pas le paysage comme on est habitué de le voir dans sa forme rectangulaire ou dans sa forme très, très concrète. Donc, il y a comme une temporalité du paysage qui est complètement différente avec les œuvres d'art médiatiques, notamment celle de Laurent. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est des projets qui sont très, très intéressants puis sur lesquels on devra réfléchir plus en profondeur.
Oui. Ben, je vous invite à consulter le site du REIC, premièrement pour pouvoir... lire les biographies complètes des artistes que j'ai résumées en deux phrases, c'est un peu indécent. Et surtout pour voir aussi, avoir des liens avec les recherches. Donc, on va passer à la présentation de Moeb. Donc, la présentation se fait en anglais, comme Lise l'a dit. Victoria pourra assumer à la fin.
Bonjour. Désolé, je ne parle pas français très bien. Peut-être en anglais aussi, parce que d'autres raisons, mais je commence. This is a work in progress about the Great Lakes region. The Great Lakes region is an area between Canada and the United States, five Great Lakes that are connected. Historically for the continent, of course, they're a very big part of so much of the history here. Economically, socially, every possible kind of facet of the way the countries both developed comes from the exploration, the settlement, and the history of the region. But this project is not a historical or economic or sociological project. It has to do with imagining how people live around the Great Lakes phenomenologically, to what extent there might be a Great Lakes culture that goes beyond Canada and the United States and has its own coherence. I think it's interesting to imagine this kind of thing, not just through sociological reasons, but to try to imagine how people experience geography on a personal level and how identity is formed by geography as well as culture, as much as it's formed by things like race and class and gender, which are such and nation state, which are such a big part of the way we think about identity in modern times. But this is a group of poems. Sand gathered out in rows. Dog doing laps in the water. And the city already game. The morning haze in its court. Seagulls, and the day before last news, park and ride. Park and ride? The little lot and water quiet and untidy. The sun checks off the Sears Tower like a pupil entranced, glanced askance in bright black glasses. Up inside you'd see it, this little pull-off, and put Michigan in the picture at the same off-balanced instant. Looking out with a cloud's countenance, skimming the lake and having horizontal go. The periphery can be so capacious when you trace it. Never even seeing the living in the loop lake rise go to work on its own three legs, south of itself. Combing the beach, for example, or tempering the Wabash Avenue runoff with the glacials. Grooming city life to nature's, this is the archetype of diversity. Even always seeing the lake through the saliva. This beach has more than two sides, more than the lake and the parking lot, and the cultivated and sandwiches, farms, and kiosk beside it, and defies properties. I've peed behind every sort of flora. I scared away all kind of fauna. I crossed the lines of R&R to bridge the banks of Main and Head streets and waters. I tried myself and had myself washed ashore to Hamlet's, face up. The whole time, my body, a petty viaduct only a beach could host. I'll change myself inside the Corolla and diaspora, footfuls of mollusky sand all over the inside. To motel districts bring natural history like a service industry escort to the outskirts of Canucks and Duskies, where in touch more with nature is what they are, and a theme park called Cedar Point would be a provincial but amusement park all the same. And no locals fudge for tourists, wee. But this place has more than two sides, more than the all-night and primitive drive-through and the camping, and defies commodity. The whole time my body held in feet of tide, not diverting to the water or exiting. But bridges fail all the time, nothing new. Bridges are being built and rebuilt all over these lakes, construing the accounts of travelers for, you know, I came in off the water, never having been out there. I came in off the water, never having been out there. I come in off the water, never having been out there. Losing myself in the man. Bragging to friend or family. Brag to me. Motorboats coming in out the mist and fog like names returning to relatives. Sunset catches in their bow talk. The lake a burned down wreck hull with one colossal rusted jalopy of an ore dock towed beside. A fish this big, says Dad. A wallop like this punches Uncle. Well, brag to me. Pulling the truck up, reeling the boat in. Letting the fish go, always the one that got away. I would marry you, family, just to be able to brag to Mrs., sinking the sunset between the dishes and stacking them next to the Tassanite chips passing the windowsill on taco night with smoked fish. A fly this noisy, joke boys, a tail this tall, yanking the young one against the wall and measuring the cowlick. Boy clears the silverware, collects all the agate rocks seen through the screen door, the two harbor skyline of sundown at the ore dock, where Me and mine lingered till dark. Not a ship to tear between the two of us, just a ride to share. 1 foot driven into the lake, another pensive as a passenger, and the last two asleep under themselves like children. The tourist and work vista of Lake Superior. Remember that livelihood forever. A catch this lucky hugs Cindy. Brag to me. Brag to me, honey, baby, Bobby. Please be real, beach. Please be real. And please be real, sand. And have been here before the men's room and the women's room. And geese, please keep landing. And more keep appearing, V's. It's chilly, but I haven't got other pullovers. The clouds parka like a car, but I'll sleep inside it tonight. Backseat and burner, dreamer and driving. Look, but don't. Touch and go. Need to have no communing for community. A parallax for this silent treatment. What all in place still runs, so. Sun, settle, fly down ever slowly. And moon, please, have no man or mosquitoes, no tattoos, neither dangle talismans nor snake mnemonic devices to fake a livelihood with the lake. Have no back, but please don't turn it. Your body, your nobody mark, make that blanched spot on the wake. That sage. The lakes. I haven't hardly mentioned them. They're one. They're one signature. They're Bob. They're Bob, but as indiscreet as lava. This lava from glaciers to water, this beach, eerie. How always up in the air and temperamental. Continually crawling from its bed to rest with an eye shot and abreast of cities like a cradle put shyly to the test by its little member as it fussies, please. Wet my ear. Dredge up memories of before Marina's Lake when you were so unreal. Oh, you're so urban, rural, suburban. Come to Lewis Center, Ohio, and be as close as you could get to natural, like myself. Be ex-urban. Be no artist. See no art. Just be real. Dancers, let me have this one. Let me alone pause. I forget no steps. Please, let's leave the lake with the geese. It makes short work of our audience. Please be real, beach. Please be real, sand, and have been from here. Before the men's room and the women's room and all Corollas that sparkle like horizons red from a far parking spot. I'm lost at lake, and my calves grow long in lonely shadows. But stay at bay, car. And stay at bay, sky. Tonight I'll dawdle here and find my solvency.
That's rocks and the tides at Skodrich Beach. Rocks and the tides at Skodrich Beach.
Thank you.
Merci beaucoup. Merci. Assez. La présentation de Sarah.
Hello, hi. Thank you, Victoria and Lise, for the invitation to be here. It's really a pleasure to come all the way from Los Angeles. So just to give you kind of a sense of where I'm coming from and some of the things that have shaped the work that I've done in Los Angeles, and one of the main things is having lived in Amsterdam for 10 years. So I lived for quite a long time without driving, and then I moved to Los Angeles. So let's go back. So having lived in an environment that is extremely pedestrian friendly to one that is not, has suddenly shifted the kind of work that I made. And also my background is in dance and performance. So those, having lived in Amsterdam and coming from dance are two major influences on my work. So when I moved to Los Angeles, I started to walk, and I felt that walking was the only way to get to know the city, which seems sort of ridiculous to walk in Los Angeles because the distances are so great. But I sort of took on a two-year project of wandering in the city and not driving. I didn't have a driver's license anymore anyways, so I just walked, and as I was walking, I became very attracted to these, what I called breathing rooms. They were empty signage, places in the city that didn't have any imagery or text, nothing to read, nothing to sell, nothing to buy. And coming from Amsterdam, a city that was so built and sort of filled in and in one way kind of overly designed, these spaces became quite intriguing to me. You know, they were sort of empty. And along the two-year research project of walking in the city, I would go back to these spaces to see sort of what had happened or how they got filled in. And so I became quite interested in urban redevelopment and what was happening in my city. And in particular, in downtown Los Angeles, where we're having sort of a renaissance of culture and people moving back to the center of the city, which I'll talk more about later. But what you start to see here is who visits these kind of sites, how long they remain empty. It says something about urban decay, but also urban redevelopment. And I started sort of having a relationship to some of these sites and visiting them. These are of downtown, these last few ones. So what's happening is a sort of a return to what downtown was, particularly on Broadway. You'll see in the next image coming up. The theaters are starting to come back. So there were, you know, this is the image. So this was a very famous million-dollar theater, which for 10, 20 years has been empty. Now it comes back as a theater. So I become interested in how kind of urban redevelopment comes back around to kind of embracing the original. I worked briefly with an architect to work in AutoCAD to map my walks, because I really wanted to see what sort of LA was for me through this experience of walking, and it says a lot to me also where I didn't walk in the city as a woman, and sort of different areas and what they mean for the pedestrian, at least particularly for me as a newcomer to the city. So it was interesting for me and important for me to sort of map those walks. And the gold line that you see running through is Wilshire Boulevard, which is sort of the Champs-Élysées of Los Angeles, which runs from downtown to the ocean. And that was an 8-hour walk where I walked from one end to the other and passed through a couple dozen different kinds of neighborhoods just to get a feel for how the city changes from one end to the other. As a performance artist, dancer, I started to want to bring this experience into the live sense and share it with others. So the first thing I did was to make a performance. This is at the Museum of Contemporary Art in San Diego, and to sort of invite people into this space, into these breathing rooms, as a kind of an alternative look at Los Angeles. And we had a small tour up the coast to San Francisco and San Diego and Santa Cruz, and we were sort of these ambassadors from LA, and a lot of people along the coast sort of hate LA. They sort of have a very large distaste for the city, and so I felt in some way our presentation was a kind of alternative or kind of a meditation on LA in a way that people weren't used to sort of thinking about it. Another way of sharing my walks was through a coloring book that I made with a graphic designer where we took the images and recycled them as kind of templates for people to fill in their own sort of, what kind of sign would you make? You know, what kind of Hollywood Boulevard would you design given the chance? There's the image of the same photo that you saw. And I tracked them too so people could locate them as well. And then I had a series of coloring book events where we just drink beer and color and just prompting playful ways of thinking about the city. And it was just important for me to kind of get out of the theater and into a different way of engaging with public. I thought, you know, why do people want to know about my walks? Why not get them eventually walking as well? I'm going to skip over that because I don't have time. But so getting people walking was important to me. And so I worked with an urban developer by the name of Deborah Murphy, who's there in the black hat. And I invited her to construct a walk with me so that she could bring in some very practical bits of information about what was happening on Hollywood Boulevard in terms of redevelopment. Because Hollywood Boulevard, I don't know if you've been there, but it's sort of shifting from this kind of gritty, kind of a little bit what's happened on Plaza des Arts in some way. It was kind of this gritty, not necessarily safe neighborhood, but it had great character. And now it's sort of shifting and gentrification is sort of, you know, the building big loft condos and it's becoming a lot more commercial. So I wanted her to come in and kind of share with people what was happening in terms of the city's planning. And then I came up with a series of activities to sort of embody some of the things we were talking about or give a kind of experiential understanding. So for instance, this is what urban planning calls a mid-block crossing. So this is Hollywood Boulevard, which is about a four-lane, fairly busy road with no traffic light or stoplight to help the pedestrian get across the street. So if you're alone, you're risking your life greatly. And I was in Toronto last time I met Victoria, and I love in Toronto because there are these signs that tell you to point when you walk across the street so people can see you. And I'm very interested in the gesture or the physical act of being present and even performative to a sense. So this is a sort of a lineup of us on the tour where you can't really see, you'll see a video later, where we zigzag across. We take quite a long time to cross the crosswalk, but we're also using this kind of pedestrian gesture, which becomes quite performative in a line. And I encourage people to make eye contact with the drivers as well. So there's this notion of interaction and obviously safety. So from that project, it became a bit more formalized with a grant from the Community Redevelopment Agency, which for me is a huge irony as an artist to be given a grant from the Community Redevelopment Agency when I'm making work about redevelopment, but also in a kind of a critical way as well. So I'm quite perplexed by that, and that's something I'm interested to talk about further afterwards. But basically, I got a grant with another artist, Sarah DeLeiden, to make a public art project for South Park in downtown Los Angeles. And South Park is still quite an impoverished neighborhood, but then we have these kind of mini Times Squares that are popping up, entertainment districts. So there's a big contrast between the commercial and the private and the old and the new. And I have I had a studio in that neighborhood, which was cheap. And now I've moved out because it got too expensive. And because I am part of that gentrification process as an artist, and I'm at the beginning of it, and I move in because it's cheap, and then I want my coffee, and Starbucks moves in, and then I have to move out because I can't afford it anymore. So I'm very interested in this complex relationship artists have to redevelopment, and I'll end with some work I've done with students to kind of look at that, because artists will say, well, the other, you know, like that's the problem. Well, I think we're also part of the problem. So. Mm-hmm. This is a video, so Christoph, if I could have some sound. This is the tour. This is a kind of a test tour.
You're actually sitting here at Grand Hope Park. Who's been here before? Our way of exploring what tourism could be in the neighborhood by suggesting that we can actually be on the ground walking and experiencing and growing our awarenesses of just being pedestrian in the neighborhood.
And so some of us might know each other and some of us might not. So just a kind of quick name game. And also this is something that will be useful when we get outside on the street. So we're almost touching shoulders. Sarah.
Amanda.
Keep in mind in LA, people aren't used to being very close together physically.
Look at the beautiful downtown skyline.
Okay, so just rub your hands together. I know it's a little bit cold, so just get your hands warm. Close your eyes and place your warm hands over your eyes for a second. With this tour, we're hoping to kind of change the way you see. So just go ahead and stretch your eyes open. Just really even like stretch your eyes. And we're gonna have one person walking backwards while one person walks forward. So just as an example, I'm walking backwards. I just took arms with someone and she's walking, she's taking care of the safety of my walking. So I don't need to worry about if I'm gonna run into something. She's taking care, she's looking out for me, and I'm just allowed to kind of enjoy the city passing by me as I walk backwards. Yeah, so grab a partner and walk backwards.
You're doing a great job.
Thanks. Tell me when the curve's coming.
Yep, I will.
We don't have a lot of time to get across the
street. We're
going to
start going uphill.
Either.
You're not going to go up, but you're just going to go up a ramp. Awesome.
We engage with the police officers, uh-huh. The folks who are watching us on the sidewalk. You know, the old couple, they wound up doing it.
It's so contagious.
It was this like moving spectacle.
Okay. Does anyone have questions or does it make sense? No?
Okay, and keep moving. A little faster.
Because if you notice in the ground, there's these lovely little green patches. We like to think of them as like almost faux grass or astroturf yoga mats.
Yeah. Nobody paid very much attention to us at all. No. I mean, we were just sort of like doing this really random thing, like sitting on the ground, or we're just like standing around. It was like people were just like walking by.
And then we're going to cross and stay together as we move around the corner. So you see, just kind of like let naturally your bodies fall into your regular gait. So keep walking, try to stay together, but fit into the sidewalk.
So we have these huge crosswalks.
Just negotiate how you do that as a group. Okay, this is the last activity for the night. Okay, here we go.
So it's hard to kind of understand all the details in this small trailer, but when we were on that kind of plaza that for me is this sort of mini Times Square that every city suddenly wants, like a mini Times Square, it was really fascinating for us in terms of how public-private plays out. So when we were on this, what seems to be a very corporate-controlled, surveilled space as a group and doing things like laying down or using these kind of astroturf yoga mats to do things, which you couldn't see all the activity, nobody paid any attention. No one bothered us. No one asked us to leave, which was not our assumption at all. And then we were in a park that seemed very public, and we were immediately, a guard came up to us and said, "What are you doing? You can't photograph here. It's not allowed because it's a privately owned park." But that the assumption is it looks public. So these sort of invisible layers of public-private or development through these tours we're hoping to prompt an awareness of, but through a very playful, experiential, friendly experience. So there is a kind of a political agenda underneath, which is, you know, here's what's happening in your city. we don't tell them that, but they experience it through some of the interactions that we have. And another walk I did, which was in East Hollywood, which we actually went into some shops and actually met some of the shop owners, and they gave us tours of their bakeries and things like that. So there is a lot of interior interaction with the neighborhood and the people who work in the neighborhood as well. And we did 6 of these tours with different community groups. Just really quick, the city of LA will not fund temporary public art. It has to be an object. Because this was a tour, the city said, we love the idea, but I'm sorry, we can't give you the money. You have to make an object. So we said, fine, this is the public art piece. This is the object, which was, it's basically a guidebook that mimics what you do on the tour, but you can hold it in your hand, and you can take it with you and put it in your pocket. And this sat at hotels and conference centers in the area that people could pick up. So I became fascinated with this notion of, you know, what constitutes public art. So what we did was we got a grant from a foundation to pay ourselves to lead the walks, and it was free for the public, but we also worked with what we called community groups, people who knew each other, who worked together, lived together, and it was quite a vast array of groups. One was a low-income housing residents who were in that neighborhood. Another group was, you know, people who go to a very posh gym. So we were interested to cross kind of different constituencies and have different demographics of groups. So it was quite broad in terms of the groups that we worked with. And there were issues with that as well. I don't know how my time is, a little bit longer.
3 minutes.
You know, one of the walks we did was we did it in Skid Row because we were working with a group of mainly men who had just gotten out of a jail, and they were in a kind of a temporary apartment complex in that area, and we were was slightly outside of that area, but we said, we give tours in South Park, so come to South Park, we'll give a tour for your group. And we were working with the organizers, and they said, no, the group does not want to go out of Skid Row. You have to come to Skid Row and do the tour there. So we said, fine, it's a flexible tour, we can do that. So we went into Skid Row, and as we were walking, I was talking to some of the participants, and I said, why did you not want to come to South Park? And they said, it's dangerous for us to go to South Park because there are different gangs in different neighborhoods, and we don't go out of Skid Row because it's not safe for us. And so that, for me, is such a kind of a wake-up call as an artist, is it's a bigger discussion of sort of the responsibility, not, I won't use the word responsibility, but awareness and sensitivity to whatever group you're working with, especially when they're outside of your own kind of demographic, and what it means to them to be in any neighborhood, to do any kind of activity. And so I have a lot of questions also about the project. Just want to put that out there and kind of share that story. These are just parts of the guide. I have a couple of these if you want to take them with you. And just to finish up, kind of where I am at now, the tours finished about a year ago. We're thinking of bringing them back, but we're talking a lot about how to move forward with it. Based on what we learned from the first round. So in the meantime, I've been working with museums and doing certain kind of activities with museums to encourage different uses of the space. This is the Hammer Museum in Los Angeles, which was never built to be a museum. It's a corporate building owned by an oil company. It's incredibly disorienting, and there's an overabundance of signage. So I was working with... it was a workshop. I was working with an architect that we brought in alternative, like, signage uses that were much more physical and engaging and kind of...
walking sideways.
Oh. This is very short. We'll just look at this and then we'll finish up.
Through the space.
And sort of mapping kind of innate patterns that people take in these very vast, open, unstructured spaces. Encouraging people to orient from their body versus from kind of an external directive. And And I think the relationship between this kind of project and what I'm doing out in the city is prompting a certain agency for participants to kind of, again, be aware of those kind of invisible layers of directive or of mapping or what's allowed or what's not allowed, and to engage the body in certain ways that prompt a presence and place. And I think the museum is no less structured and controlled than the city. And so the museum becomes a kind of microscopic research place for the city. Bringing in these kind of soft objects into an extremely cold, hard environment, and encouraging, again, collaboration, interconnectivity, being close to other bodies, being comfortable. And it'll just finish up with the last image, which is us in the lobby. And the best thing that happened that day was we were there kind of engaged in the space, and a family was also there visiting the museum, because the museum was open this day. And there was a mother and father and child over to the side, and it's a carpeted floor, and they were kind of lounging and like laying around and playing. And I thought, would this happen if we weren't here prompting a certain allowance in the space, because the museum doesn't? It's the same thing we're out on the street. If we're walking backwards and other people see us and they mimic that and they're doing what we're doing, is for me when the work is really working, when it's engaging and prompting these kind of behaviors beyond just the project itself. So I'll leave it there, and thank you very much.
Merci beaucoup, Sarah. Il reste peu de temps. Je pense que on va passer tout de suite à la salle. C'est des questions.
Oui, Jean-François Prost. Sarah, I really liked your comment about the fact that you were saying that private spaces were often more open than public spaces. Mm-hmm. I think that's a really interesting comment, which can be maybe also interesting for this regroupment here that we have about what is exactly a public space. It's something which I've been observing myself through different work in Montreal, that in fact public parks are in fact extremely controlled, and more than many private spaces in Montreal. And it maybe brings back to this idea that in fact anything that's private domain or public domain, anything which is related to domain, is then possibly not a public space, and that it's maybe more indeterminate spaces, which really where the question of engagement is necessary, which makes it public. But I was wondering, is there any other, like through your walks, of spaces that you would qualify as the most public in that question? Or,
what comes to mind is not so much in Los Angeles, but I didn't show this project, but as part of PSI, Performance Studies International, I was working with Bianca Mancini, who some of you might know, who's here, who got her PhD at Concordia, and Christoph Brunner, I think, a couple years ago. So we were doing similar kinds of activities in Zagreb, and I have to say that we were in a plaza, and it felt like the most public space I've ever worked in. I have no idea what the politics are of that space, but it felt public because we were there on a holiday. It was a national holiday. And of course, we were just naive tourists. We didn't actually know it was a holiday till after we were out in the space. And we were in a very public space in the center of the city. And nobody asked us to leave. Nobody seemed bothered by the fact. One of our participants even went into a public fountain and went swimming. And people were... It seemed to be a very kind of free, open space, and I was really surprised that nobody confronted us. But in Los Angeles, it's sad to say, but I almost feel like there are no purely public spaces. That's that kind of comes up for me as a kind of red flag in a way when you ask that. At least I don't feel there are. So I don't know if that answers your question, but my experience has been that in Los Angeles, nothing feels purely public, where you can do anything. And of course, this is post 9/11, and we're in a very particular time. So I'm sure 20 years ago, it felt different.
Victoria traduis ou est-ce qu'il y a des gens où ça va? Ça va?
Ne vous gênez pas.
C'est ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Moi, j'ai un commentaire. Je me demandais si le colloque allait parler de nature, parce que c'était une de mes préoccupations. Est-ce qu'on peut encore parler de nature aujourd'hui? De la nature-nature, là. Puis hier, avec Nicole Fournier, avec Francine, avec Moeb, on voit un rapport à la nature qui... Surtout vous deux, c'est comme très différent. C'est Francine, tu interviens dans la nature en même temps en essayant de réparer ce que les humains ont fait, en partie, pour certains projets, comme avec les temps. Puis Moeb, c'est le rapport à la nature passe dans ton corps et on reçoit ce rapport à la nature à travers ton corps et ta voix. Puis c'est drôle, c'est comme deux approches complètement différentes, mais c'est très, très beau, là, c'est très touchant. Donc, en tout cas, c'est ça. Je suis contente qu'on en parle, que la nature existe encore.
l'exemple du travail qui a une dimension médiatique, technologique avancée, les données influencées par le vent, l'eau, la pluie, tout ça, c'est la nature.
Exactement, aussi. Alors, oui. En tout cas, c'est un commentaire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui. Je pourrais, et Jean-François aussi. I guess tu vas t'en souvenir de ta question? What I'm pleased about, and this doesn't necessarily happen in a conscious way, but we keep coming back to the same threads and the same themes because of the overarching theme of the symposium. We unfortunately couldn't finish a discussion that we started yesterday afternoon about, among other things, the way the work has an impact, or the question as to whether work in the public has an impact on the public. Mm-hmm. And one of the notions that came up was how do we measure its success qualitatively, quantitatively? And one of the discussions that came up was about how we enter into dialogue. And Sarah brought that up just now with the last image that you showed us. You were discussing it before, but it came up in a really salient way in the last image. And you just said it in other words, that's how you see the work working as in having some sort of degree of, we'll call it success, resolution, some continuation into the world because other people respond to it who somehow end up interacting with it, whether directly or indirectly. It's not really a question as such, but it's just a relationship between what we were talking about yesterday and the continuation as to what you just said now. Because I was really thinking about that a lot after leaving here and realizing that it's important that this has come up as an idea, an important goal, let's call it, of this kind of work, that's how it continues to move through the world through the way it inspires some kind of dialogue, whether with oneself or with the community that happens to come into contact with it. And it does create a certain contagion, it can anyway. So your question of, would this family have felt as comfortable to just lounge around if we hadn't been there lounging? It's hard to answer. We're not inside their heads, but we can make a hypothesis and say probably not. You gave them permission to do that. So that could lead into a whole other discussion, but it's nice to see how that came back in what you showed us today with the images and the work that you described.
Sure. Just really short. I mean, for me, I mean, in no way do I think that being pedestrian is going to get people walking in Los Angeles, and that's not a goal of the project. That would be quite naive and utopic, but, you know, just by having this sitting next to a brochure about Walt Disney World, or what's it called? Yeah, Walt Disney World, or just as kind of a prompt, like I love this word prompt, like it's not change, it's just prompting. It's like you put it out there and it has resonance and you don't know what that is, and it might be really subtle and it might not exist at all, but I think all you can really do is like the prompt, the act, because I'm not assuming that I'm changing anybody and I'm doing it because I'm interested in it, and if I'm having fun, maybe that resonates out in a way that can have effect, but it's not the goal of the project, I wouldn't say.
So I'll add one more comment, and then we'll go to Jean-Francois's question, to relate it again back to what's actually going on in Montreal right now. Ça m'épate de voir comment que le monde, et je dis pas ça de manière... pas le mot négatif, péjoratif, que monsieur et madame tout le monde, de ce que moi j'observe, de ce que moi je témoigne, sont participants actifs aux parades qui sont en train de se dérouler à chaque soir. Que je vois les familles qui sont là, plus que, ben, c'est sûr qu'il y en a des étudiants qui sont là aussi en train de manifester, mais la plupart du monde que moi j'observe, ce sont des familles, des parents avec leurs bébés dans les...
Carottes, poussettes,
voilà, et autres. Et je vois qu'Annalise veut commenter là-dessus aussi. Et ça me touche énormément, puis ça me donne aussi l'exemple très concret de ce que Sarah est en train de dire. It's a prompt. Puis c'est joyeux, finalement. On est là parce que c'est quelque chose de très sérieux, mais c'est devenu quelque chose vraiment que de plus en plus de monde se rend compte que, ben oui, je peux participer à ça. C'est quelque chose qui rassemble le monde, puis c'est contagieux, finalement. Donc, ça, c'est très... c'est relié aussi, puis ça revient à ce que notre participante Anne Bérubé commençait à dire hier pour actualiser un peu ce qui se passe dans le monde concret, actuel, réel, et avec les projets qui sont finalement des choses qui se déroulent dans le concret, puis l'actuel, puis le réel. There's a really nice coming together. Anaïs voulait dire quelque chose, puis Jean-François aussi. OK.
Puis aussi, en tout cas, j'invite aussi les artistes à participer aussi à la discussion.
Oui, justement, je pense que c'est aussi ce qui est intéressant de voir dans ces manifs, c'est plutôt le rapport aussi intergénérationnel. Et aussi, peut-être qui me ramène peut-être juste à la mise en relation que je voulais faire, c'est que aussi par rapport à la nation, que le concept de la nation est aussi que ça s'ouvre par rapport à la relation au territoire et d'autres, et d'autres lieux aussi qui sont ailleurs sur la planète. Et ça me vient à parler de ton travail, qui en passant, je trouve ta présentation était vraiment incroyable, était superbe. La mise en relation que je voulais faire, c'est qu'actuellement, autour de la Méditerranée, il y a aussi énormément de revendications par rapport à ce territoire-là, par rapport finalement aux divides, aux séparations qui ont été créées par la communauté européenne et par rapport à cette séparation du nord de l'Afrique et du sud de l'Europe. Ben, je trouve que quand tu parles des grands lacs, ça m'a vraiment fait penser à ça aussi. Que vraiment de penser le territoire au-delà des nations, c'est quand même quelque chose qui me semble être vraiment très pertinent dans le débat actuel. Oui. Donc, en tout cas, merci.
Bon, ben, c'est Anaïs. Anaïs Jeanne. donc, moi, c'était une question plus en rapport espace public, espace privé. Appropriation, transformation, que ce soit par l'art ou par différents moyens. Est-ce que vous avez des choses complémentaires à ajouter? Parce qu'on parlait de ça avec Anne Bérubé qui fait la proposition de, par la manif de l'appropriation de l'espace public. Le fait qu'il y a une limitation actuellement sur la loi 78 qui interdit de cette appropriation d'une quelque sorte parce qu'il faut définir où on va pour avant de le faire. Donc, comment vivre ça en tant qu'artiste, cette idée de cette relation espace public, espace privé, appropriation, transformation par toute performance ou comment ça se vit pour compléter un petit peu, de, si vous avez des commentaires à ce niveau-là.
Je ne sais pas.
Ben, je ne peux pas parler d'un point de vue d'artiste parce que ce n'est pas le mien, mais disons que dans ma conception d'un projet artistique, le projet artistique peut avoir lieu sur ces deux territoires-là qui ont l'air d'être à l'opposé, mais qui se trouvent souvent habités de fractures ou de lieux indéterminés. Donc, je pense que l'œuvre comme dispositif tel que moi je la conçois, ben ça, non seulement ça tient en compte, ça tient en compte, ces différents territoires-là, mais ça permet à l'œuvre justement de se déployer, donc en plusieurs lieux, en plusieurs, sous plusieurs formes, qui vont permettre d'investir les lieux de différentes façons. Donc, si une œuvre est composée... parce qu'en fait, aussi, dans la question du dispositif, il y a toute la notion de pouvoir qui est là aussi, que je n'ai pas évoquée ici parce que ça ne se prêtait pas trop. Mais je vois que finalement, ça aurait pu être abordé. Mais en fait, comme le dispositif lie les hétérogènes, le projet artistique peut aussi lier ces différents hétérogènes puis vient engendrer des relations entre ces différents éléments, ces différentes modalités d'existence. Donc, je pense que dans le contexte actuel, par exemple, je pense, je ne sais pas moi, aux performances de Sophie Castonguay qui, jour après jour, va rester avec plusieurs personnes, des textes dans les lieux publics, les textes varient, la composition des gens avec qui performent, dans le fond, avec elle, varie aussi. Puis, ça devient un moyen de prendre position par rapport à la situation. Donc, puis en fait, les récits sont très privés, sont chuchotés à l'oreille des performeurs. Puis, en même temps, ils sont rendus publics à travers les participants. Donc, peut-être que je m'éloigne un peu de la question, mais je pense que... voilà, je pense qu'il faut être capable de moduler notre conception de ce que c'est une œuvre d'art pour l'étendre à une temporalité plus large puis à des modalités d'existence qui sont diversifiées, en fait. Mais peut-être que je n'ai pas répondu à la question.
J'aurais aimé ramener peut-être Julie, mais sur le territoire du paysage alternatif. Mais okay. Allons-y.
Non, mais Sarah, elle a dit quelque chose de vraiment beau, je trouve, par rapport à... pour tout ce que tu dis, Victoria, elle a dit peut-être quelque chose comme peut-être qu'on met des gestes dans l'espace public. T'sais, c'est comme si les artistes ajoutaient, quand elle parlait des gens qui marchaient dans les deux sens, comme si quand les gens la voient, ils se disent « Ah, ce geste-là existe dans l'espace public, bon, peut-être je pourrais le faire. » Puis je pensais à comme différents niveaux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'année passée au FTA, il y avait, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était un groupe autrichien qui sont... un paquet d'artistes anti-cirque et je ne sais pas quoi qui investissaient le mobilier urbain de toutes sortes de façons, en tout cas. Mais bon, ça se faisait quand même dans le cadre d'un festival avec une foule immense qui regardait les gens détourner le mobilier urbain, puis tout ça. Puis si on compare ça, par exemple, à des gestes comme ceux de Sarah, qui sont beaucoup plus discrets, qui ne sont pas mis en scène par un contexte... c'était super intéressant, là, le truc au FTA, mais bon, c'est encore dans un contexte de relation de spectacle. Puis par rapport à Sarah, où on est beaucoup plus près de dire « Ah, peut-être ça m'appartient, ce geste-là. » Puis je pense que par rapport à ce que tu dis, Victoria, dans les manifs, c'est ça, c'est vraiment comme c'est n'importe qui fait quoi que ce soit. C'est comme si tous ces gestes-là pouvaient appartenir à tout le monde. Il y a comme différents registres, selon moi, là, qui font que... puis qui cernent la place peut-être des gestes esthétiques ou qui disent peut-être c'est quoi la place politique, esthétique des artistes dans tout ça. Puis de rajouter des gestes, pour moi, c'est comme d'ouvrir toutes sortes de possibilités, peu importe que ce soit... avec un contenu politique ou pas, là.
Donc,
Moi, je me sens comme diamétralement
à l'autre bout, tu sais, du prisme, qui est comme dans un monde, un univers de silence, un univers de contemplatif, un univers de complicité avec le lieu, puis avec celles ou ceux qui vont y passer, ils vont peut-être y voir quelque chose. Le premier geste que j'avais fait à Métis, entre autres, il y a quelqu'un qui passe, l'œuvre n'est pas identifiée. C'est un ami de mon frère, il l'appelle, puis il dit, il faut absolument que Francine voie, il y a quelque chose à Métis. Il dit, c'est vraiment incroyable, c'est un travail sur un barrage avec des mousses. Alors lui, il a dit, bien, c'est ma soeur qui a fait ça. Puis en tout cas, tu sais, c'était même pas identifié, parce que c'était pas, les gens savaient pas si oui ou non, il y avait un geste de poser. Et pour moi, c'est plutôt... c'est connecté à ma façon de faire, qui est très introvertie, qui est très intérieure, à savoir que je fais beaucoup de cueillettes. J'aime beaucoup être seule dans le bois, seule dans la nature. De fait, les marches ou les gestes posés, il y a certains Anglais qui l'ont fait, de marcher dans la nature, mais de le faire de façon systématique, solitaire. Alors que moi, je ne le fais pas comme un geste... il y a beaucoup de gestes qui sont faits que je ne considère pas artistiques. Je me rends compte qu'il y a une différence entre cette attitude qui est vraiment le résultat de toutes sortes de processus d'évolution dans les manifestations, et qu'aujourd'hui, peut-être que je ferais autre chose. C'est comme l'accumulation de tous les changements que j'ai opérés par rapport à l'art reçu. Premièrement, avec les jardins, c'était comme refusé par l'art contemporain. L'art in situ n'était pas existant ici du tout. Donc, je me suis marginalisée tout de suite en partant parce que pour moi, c'était un besoin. Je ne voulais plus parler dans les musées ni les galeries à un moment donné parce que pour moi, c'était de la fiction pure et simple et que mon rapport au réel était complètement rompu. Alors, donc, j'ai fait un travail, puis je me suis distanciée, et puis dans le fin fond, je me suis différenciée aussi. Tu sais, comme un parmi les autres, mais fort différemment, des gestes subtils et très pertinents, à mon avis, que vous faites. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, c'est comme tout à fait autre chose, mais super intéressant et très sensible. J'aime beaucoup, beaucoup ce travail d'être mis en contexte par les artistes eux-mêmes. C'est ça qui est fantastique.
Ben, si tu me permets, moi, j'y vois justement beaucoup d'affinités. S'il y avait un dénominateur commun, ce serait celui de l'expérience. De l'expérience dans le sens scientifique, quand tu parles de tes premières œuvres avec les mousses, les tests, de revenir, de voir comment le temps qui passe, cette attention-là. En fait, plus que l'idée de la nature qu'on contemple, ce que je retiens des projets, c'est beaucoup le rapport au temps. De se laisser absorber, que le paysage nous habite et qu'on puisse après ça le partager. Mais cette attention-là, qui est la même aussi dans les déambulations pour voir tous ces panneaux réclames qui sont silencieux, de faire cette cartographie-là, elle est là aussi dans un contexte urbain où l'expérience aussi de ces villes qui sont modélisées. Mais comment tu parlais que c'était particulièrement fascinant, c'est le terme que tu as employé, ou émouvant de pouvoir voir en différé, mais quand même de sentir que le temps, la présence de la pluie, du vent, de sentir la nature en fait en même temps, mais ailleurs. Donc, ce serait peut-être ça sur la question du temps, de la lenteur peut-être, et de l'attention au lieu que...
Moheb and Sarah, do you need a quick summary of what Martin just said so that you can have at least, even if you don't need to respond, some dialogue in your own mind about it? And Jean-François, feel free to jump in because you're a good thinker in these things, and you're extremely bilingual, too. So, generally speaking, what has moved Martin in seeing all of these proposals together and the ways that all of you are working is that the common thread that each of your projects have, even though they're quite vast, varied, is that you're all primarily interested, or all the projects are primarily interested in a relationship to time and to experience. And so the experience of the artist with the work, and then of the public's engagement with the work, is what's at the forefront. And where the artist is concerned in making the work, it's the relationship to the work over a period of time. Because that's what creates the work as it ends up being shown in a final instance to the public, whether it's through Francine's experiments in the landscape, where she has to keep coming back in order to feed literally the work in order for it to get to another stage of being as it evolves.
Si je peux me permettre d'ajouter aussi, yes, avec les couches historiques du lieu aussi. Donc il y a cette présence-là dans l'actualité de l'espace, mais aussi le savoir de l'histoire de cet espace-là. Donc,
okay, so your relationship to the history of the space, your history with the space and the history of the actual space, and that becomes a part of the research as well, as is the case with the work that Charlotte talked about, because there is a definite evolution of that landscape over time, and it's shown visually through the way we see light move in those images. So the body becomes in relationship with that in another way of experiencing it through the eyes. And then Sarah showed us images, in a sense, I want to call them before and after. They're not quite before and after, but we're seeing the evolution of a landscape as time is having an effect on it, and city structures around it. And that's, I think, the basic premise of what Moheb is researching. If there is a Great Lakes culture, then it's something that's developed necessarily over a period of time, mm-hmm, in being in relation to that particular landscape as well. I kind of extrapolated from what Martin said, but the idea is that those are the common threads between all of your presentations. Do we have time for another comment or question? Should we wrap up here? It's almost noon. Martin, est-ce que tu avais d'autres choses à amener ou à demander ou?
Ben non, c'était le terrain. Peut-être qu'on va continuer d'en discuter pendant la période du dîner, mais c'était vraiment sur la qualité de la présence, en fait. Vos projets parlent beaucoup de présence au lieu et
you probably
c'est très
that.
Inspirant. Donc, pour ce qui est de présence et peut-être de déambulation, je voudrais vous rappeler que Audiotopie se prête à la prochaine promenade.
Je pense que c'est à midi et quart aujourd'hui qu'on se donne rendez-vous.
Oui, midi et quart au plus tard. Et le lieu de rendez-vous, c'est dans le métro Côte-des-Neiges, au Tourniquet, en bas. Donc, vous descendez. C'est le même parcours que celui d'hier, oui.
Mais la rencontre est à un autre lieu. C'est dans le métro Tourniquet, c'est
oui,
ça?
Oui, c'était le lieu de rendez-vous d'hier, en fait.
OK, parce que le monde sont partis ici ensemble.
OK. Bon, on peut se rassembler ici et peut-être quelqu'un...
Oui. Peut-être à midi 10, mais vous dire que ça ne dure pas 2 heures. Donc,
non,
on va être de retour.
Minutes.
C'est ça. Donc, on peut revenir, il y a le dîner en haut, il y a des fromages, du fromage, du pain, des jus. Puis à 2 heures, ça recommence avec l'expérience de la correspondance en ligne entre Elisabeth Chitty et Caroline Monet, qui ne sont pas présentes, mais qui nous ont fait une petite vidéo chacune pour nous parler de l'expérience qu'elles ont vécue pendant 3 mois. Elles ont échangé... Et en tout cas, on a des copies. Martin et moi, on a fait des best-of de leur correspondance. Donc, on pourra en remettre à tout le monde qui s'intéresse. Puis, c'est très, très beau hein, ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles ont fait, leur démarche. Donc, je pense que ça va être très touchant de les entendre. Puis, ensuite, c'est la quatrième table ronde. Donc, voilà.
Encore une fois, merci aux gens dans la salle et à la table.
Merci beaucoup.